Dieu veut nous apprendre à combattre avec foi. On est dans cette église, et donc ça fait déjà un an et demi que je suis là, et on fait face à quelques défis. J'en ai noté trois. Premièrement, un défi démographique. L'église, vous le savez, est à la base d'une église chinoise, et aujourd'hui, dans la partie francophone, beaucoup de personnes sont des familles, bien pris par leur temps, et la partie sinophone est composée de personnes chinoises qui sont déjà bien avancées en âge, et en fait, ils sont à la retraite, et il va certainement bientôt falloir prendre soin d'eux. C'est eux qui ont fondé l'église, c'est eux qui l'ont implantée, et ils arrivent dans une phase d'âge où on va devoir prendre soin d'eux. C'est le premier défi auquel on fait face. Le deuxième défi, c'est le défi culturel. On sait qu'on est une église chinoise, on a des cultes en commun, au moins 5 cultes en commun tous les ans, avec du français et du chinois. Mais pour toutes les personnes qui ne sont pas dans l'arrière-plan chinois, eh bien, comment on fait? On a des gens qui rejoignent l'église qui ne sont pas ni dans l'arrière-plan français ni chinois. Il faut les intégrer à l'église et c'est un autre défi auquel on fait face. Et le troisième défi auquel on fait face, c'est que Pasteur Daniel, qui a fondé l'église, vient bientôt partir à la retraite et se pose une question parce que je l'ai vu dans beaucoup d'églises chinoises, ça ne se passe pas aussi bien qu'ici. Souvent, entre la partie sinophone et francophone, dans le fonctionnement, il y a des difficultés à avancer, des difficultés à fonctionner ensemble. Ça crée des tensions. Et je peux vous dire que des églises chinoises que j'ai rencontrées, celle-là, c'est l'une où ça se passe le mieux. Bravo, effectivement. Mais Pasteur Daniel va bientôt partir à la retraite et ça va impliquer de rechercher un nouveau pasteur, ça va impliquer de nouveaux défis. Tout ça pour dire quoi? On est dans une église en transition et dans une église qui est escalée, elle est belle, elle est modeste et elle va faire face à des défis. Et cette église, qu'on pourrait dire affaiblie, est également engagée dans un combat spirituel. On le voit en Éphésiens 6, 12, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on ne se rend pas souvent compte, mais Satan est une réalité et Satan et les puissances des ténèbres sont à l'œuvre dans ce monde, très actif. Bien sûr, il est sous le contrôle de Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais il est réel, il est puissant, il est mauvais. Il détruit les familles, il détruit les sociétés, il les plonge dans le péché et il veut dominer sur cette ville, Saint-Maur, nous attirer loin de Dieu, il veut menacer les membres de nos familles. Et ça, c'est une réalité, les amener directement en enfer. Et ça, c'est une réalité. Et il a deux stratégies, basiquement. Soit il nous attaque de manière très frontale, physiquement, par des maladies, des choses comme ça. Dans nos sociétés, ce n'est pas trop ce qu'on a. Ou alors il essaie de nous attirer loin de Dieu par le confort, par le plaisir, et nous attirer dans le péché, comme ça, sans qu'on s'en rende compte, petit à petit. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Mais nous l'avons vu, on est dans cet état d'église un peu qui fait face à des défis. Mais si on ne se bat pas, comme on le voit dans ce texte, comme on est appelé à le faire, eh ben les ténèbres de ce monde vont continuer à grandir, à détruire nos villes, détruire ce qui nous est cher. Et si on ne va pas dans une direction, on va dans une autre. Alors la question c'est, dans notre situation, comment pouvons-nous continuer à combattre? Parce que Dieu veut que nous, en tant qu'église de Saint-Maur, avec ce que nous sommes, nous puissions continuer à combattre. Alors, comment pouvons-nous faire? Pouvons-nous vraiment gagner? Avons-nous cette capacité? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle stratégie devons-nous employer? Et l'histoire de ce matin est l'histoire d'un peuple qui est faible également. À l'origine, cette histoire s'adressait aux descendants de la génération de Moïse et d'Aaron. C'est-à-dire la deuxième génération, tous leurs parents sont morts dans le désert, 40 ans après, et ils s'apprêtent à faire quoi? À s'attaquer au pays promis, à lancer une grande conquête militaire. Et eux aussi, d'une certaine manière, ils étaient faibles, ce n'étaient pas des militaires formés, c'était des fils d'esclaves, ils avaient grandi soit en grande esclavage, soit ils étaient nés dans le désert, c'était des familles avec des enfants et des personnes âgées, un peu comme nous. Et ils allaient aussi avoir un nouveau chef, Josué, qu'ils ne connaissaient pas, parce que le grand chef Moïse qu'ils avaient libéré d'Égypte va aller mourir, et ils avaient besoin de connaître ce nouveau chef. Et cette histoire nous présente qui est ce nouveau chef, ce Josué. Et Moïse a écrit cette histoire pour eux, mais il l'a aussi écrite pour nous. pour qu'on puisse apprendre nous aussi à faire confiance à Dieu et à lui obéir. Et cette histoire nous enseigne à nous aussi aujourd'hui. À quoi ? À combattre avec foi, car Dieu a déjà remporté la victoire. Et nous pouvons apprendre en tant qu'Église trois leçons, apprendre à combattre, apprendre à croire et apprendre à commémorer. Apprendre à combattre. Et nous commençons à notre texte en Exode, chapitre 17, au verset 8. En ce moment-là, Amalek arriva à Réphidim et combattit Israël. Si vous vous rappelez bien, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. À la base, est-ce qu'il les a fait directement aller dans le pays des Philistins, en terre promise ? Non, il leur a fait faire un détour. On lit en Exode au chapitre 13 et au verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Et on comprend pourquoi. La guerre, c'est une chose terrible. Je sais que certains dans l'Église ont une expérience plus proche de la guerre que moi, notamment dans la partie sinophone. Il y a des gens qui ont fui la guerre, littéralement, et ils connaissent davantage que moi ce que c'est que l'horreur de la guerre. La guerre, ça change complètement le cœur d'une personne. Mon grand-père a participé à la guerre d'Algérie et il en est revenu transformé. Ma grand-mère, quand il est revenu, n'a pas retrouvé l'homme qu'elle connaissait. La situation était si mauvaise que mon oncle a dû emmener ma grand-mère pour fuir mon grand-père parce qu'il était, voilà, la situation, la famille était comme violente et grave. Et donc, elle a pris ma mère et les 8 autres enfants, grande famille, et ils ont emmené près de mon grand-père. Et je peux vous dire, voilà, encore aujourd'hui, à quel point moi, en tant que petit-enfant, je vois les dégâts que ça a fait dans ma famille, chez ma grand-mère et chez ma mère, encore jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que dans vos expériences aussi, dans vos vies personnelles, il y a les héritages de la guerre se propagent jusque dans la deuxième génération, dans la famille. On comprend pourquoi Dieu voulait leur faire éviter la guerre. Et pourtant, quelques mois après la sortie d'Égypte, ils sont attaqués par Amalek. Pourquoi ? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils seraient attaqués ? Est-ce que Dieu ne pouvait pas leur faire éviter cette bataille-là aussi ? Bien sûr qu'il le savait, bien sûr qu'il le pouvait, mais Dieu voulait leur apprendre quelque chose, je crois. Il voulait leur apprendre qu'ils avaient été délivrés, pas juste pour rentrer les mains dans les poches dans la terre promise, mais qu'ils avaient été délivrés de l'Égypte, pourquoi ? Pour combattre. Et ils sont attaqués par Amalek, alors que c'est un peuple familial composé à la base d'esclaves. Imaginez la scène. Le peuple d'Israël marche dans le désert depuis maintenant quelques mois. Ils ont leurs épouses, leurs enfants, leurs pères et leurs mères et tout leur bétail. Au moins 600 000 hommes, donc le double avec les femmes. On imagine la foule immense qui marche dans le désert. Et un jour, alors qu'ils sont à Réphidim, ils sont attaqués par Amalek. Pourquoi, à votre avis, Amalek a-t-il décidé d'attaquer le peuple d'Israël ? C'est certainement parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir remporter la victoire. Celui qui se lance à l'attaque est certainement certain de pouvoir la remporter ou avoir une grande chance de la remporter. Amalek, c'était une tribu de guerriers habitués au pillage et à la guerre. C'était des guerriers. Mais quelles sont les forces qui se trouvaient en face ? Le peuple d'Israël, au contraire, c'était un peuple familial. C'est comme si, ce matin, dans cette église familiale, des terroristes armés rentraient dans cette salle et commençaient à faire un massacre. Qui sommes-nous ? Pasteurs, pasteurs stagiaires, des professeurs, des ingénieurs, des comptables. On n'est pas des guerriers. On n'est pas armés, ce serait un véritable massacre. Et le peuple d'Israël était un peuple affaibli, faible, fils d'esclaves qui marchait dans le désert, un peuple familial. Et on pourrait dire, une attaque, mais pas de problème. Le Dieu est là. Le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte, il est là. N'est-ce pas ? Sauf que l'Éternel ne combattra pas lui-même pour vous. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait fait en Exode 14, au verset 14. Face aux Égyptiens, il avait dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Mais cette fois, la stratégie est différente. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes pour aller combattre Amalek. et moi je monterai avec le bâton sur la montagne. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut combattre si Moïse est là, si Moïse a le bâton, pourquoi est-ce qu'il faut combattre? L'Éternel avait combattu seul contre les Égyptiens, il les avait plongés dans la mer. Et quand Moïse a le bâton de Dieu à la main, les nations tremblent. Comme dans Exode 9, Moïse tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Et dans tous les passages qui sont mentionnés ici, quand le bâton de l'Éternel est levé, c'est de l'eau en sang, c'est les grenouilles, c'est les moustiques, c'est les sauterelles, c'est les ténèbres. Autrement dit, Dieu aurait très largement pu, en un instant, exterminer Amalek, tout seul, sans avoir à demander à Josué de choisir des hommes, ni à Moïse de monter sur une colline avec un bâton. Mais Dieu veut apprendre une chose à son peuple à ce moment-là, et aux descendants qui liront ces lignes avant de se lancer dans la guerre de la terre promise 40 ans plus tard. Il va falloir se battre. Si vous voulez conquérir le pays promis, cela se fera avec du sang, de la sueur et des larmes. Le peuple doit apprendre que Dieu l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte pour combattre. Et l'Église aussi doit apprendre que Dieu l'a libéré de l'esclavage du péché pour combattre. Nous n'avons pas été sauvés pour vivre une vie, la meilleure vie, tranquille, les mains dans les poches, et rentrer comme cela, paisiblement, au paradis. Oui, il y a la paix, mais en tant qu'Église et disciples de Christ, comme nous l'avons vu en Éphésiens, nous avons à lutter contre les principautés. Alors, frères, sœurs de Saint-Maur, notre Église est appelée à combattre la question et combattons-nous. Combattons-nous. Peu importe notre force, notre nombre, notre expérience, que l'on soit jeune ou vieux, ou sans pasteur, ou avec pasteur, aujourd'hui Dieu veut nous apprendre à combattre. Combattre pourquoi ? Pour que la lumière de l'Évangile puisse arracher des âmes aux ténèbres, pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore, pour les personnes de nos familles qui ne le connaissent pas encore, pour être protégés des attaques de l'ennemi, pour tenir ferme et tout surmonter, pour rendre captifs, arracher de la captivité ceux qui sont dans l'aveuglement, pour sauver des âmes et qu'elles puissent connaître le Seigneur. Alors Clément, toi et ton Église, vous devez vous battre. Est-ce que nous combattons ? Et si nous combattons, comment devons-nous combattre ? C'est la deuxième chose que Dieu veut apprendre à son peuple, c'est apprendre à croire, apprendre à combattre avec confiance, apprendre à combattre avec foi. Et je vous pose la question, à la place de Josué, est-ce que nous n'aurions pas eu de doute ? Mettez-vous un peu à la place de Josué. L'enjeu pour lui et ses hommes est immense. Ils allaient se battre avec leurs femmes et leurs enfants en arrière-ligne, leurs propres enfants derrière eux. Imaginez les conséquences désastreuses en cas de défaite. C'est un massacre. Et on peut imaginer les questions de Josué à Moïse. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une meilleure stratégie ? La stratégie, ça n'a vraiment pas d'importance. Est-ce qu'il ne faudrait pas choisir plus d'hommes ? Le nombre d'hommes, tu ne me dis même pas le nombre d'hommes. Choisis des hommes, mais combien ? Est-ce que le nombre d'hommes n'est pas important ? Et la compétence des soldats qu'on va choisir, ça n'a pas d'importance non plus. Mais qu'a dit Moïse ? Ça n'a pas d'importance. Une seule consigne. Choisis-nous des hommes. Sors et combat les Amalécites. Choisis des hommes. Et demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. C'est tout ? Pas de doute ? Pas de question ? Qu'aurions-nous fait si nous avions été à la place de Josué ? Est-ce qu'on aurait cherché à négocier, à trouver un autre moyen, à prendre des assurances ? Une situation aussi effrayante ne peut pas être arrangée si facilement. On ne peut pas laisser les choses comme ça, presque au hasard. Et Dieu aussi nous a donné nos consignes en tant qu'Église. Nous connaissons quelles sont nos armes, quelles sont notre position, comment nous devons combattre. Bien sûr, on ne doit pas se battre physiquement avec des armes ou avec des pistolets, ou etc. Non. Nous devons nous battre avec les armes que Dieu nous a données. Avec, comme nous lisons dans ces lignes, ses armes à lui. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité. Enfilez la cuirasse de la justice. La justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile. Le zèle. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, versets 14 à 18. La vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'esprit, comme épée, et les prières et les supplications. Voici nos armes. Ces armes ont toute une relation soit à la parole de Dieu, soit à la prière. Et nous devons nous saisir de ces choses pour battre. Voici les consignes que Dieu nous a données. Et on pourrait se dire, mais c'est tout. Est-ce que vraiment ça peut changer les choses? Est-ce que vraiment ça peut avoir un impact dans ce combat spirituel dans lequel on est engagé? Cette parole qui est une folie pour le monde? Ou alors être dans sa chambre à parler tout seul, ou ici en église à parler à un Dieu qu'on ne voit pas? Est-ce que vraiment ça marche? C'est tout, il n'y a pas de meilleure stratégie? Mais Dieu veut que son peuple apprenne à obéir avec confiance et à ne pas s'appuyer sur son intelligence, tout comme Josué, tout comme Moïse. Dieu veut que nous ayons confiance dans les armes qu'il nous a confiées. Et Josué a fait confiance, Moïse a fait confiance. Josué fit ce que Moïse lui avait dit et combattit Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. C'est comme s'il n'avait même pas posé de questions. Il savait certainement que cette stratégie venait de l'Éternel. En tout cas, il avait confiance en Dieu et en Moïse. Chaque fois que Moïse levait les mains, Israël l'emportait. Et chaque fois qu'il baissait les mains, Amalek l'emportait. Je ne sais pas ce que Josué et ses hommes pensaient sur le champ de bataille. Il devait avoir certainement des hommes qui tombaient à sa gauche, à sa droite. La journée a dû être incroyablement longue, du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas combien de fois elle a dû regarder au sommet de la colline pour voir Moïse, si le bâton était toujours dressé. Mais il devait se dire, tenons bon, Dieu a parlé, Dieu est fidèle, il va tenir parole. Et la journée a certainement dû être très longue pour Moïse. Imaginez un papy de 80 ans qui doit tenir son bâton tout au long de la journée au-dessus de ses mains. C'est déjà difficile de le lever pendant 5 secondes pour une personne âgée, alors imaginez toute la journée. Et les mains de Moïse étaient en effet lourdes. On apporta une pierre, on la plaça sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui tinrent les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains furent soutenues jusqu'au coucher du soleil. Il faut tenir bon, Dieu est fidèle, pour eux aussi, Dieu avait parlé, et la seule façon de gagner, c'était d'obéir et de faire confiance à ses recommandations. Et ils ont obéi avec confiance, ils ont cru en l'Éternel, et ils ont remporté la bataille. On lit au verset 13, « Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple par l'épée. Au coucher du soleil, Josué et ses hommes sur le champ de bataille, jonchés de cadavres, l'impossible avait été réalisé. Le peuple familial, issu d'esclaves, avait vaincu l'armée professionnelle. Peuple de Saint-Maur, nous sommes le peuple de Dieu à Saint-Maur. Dieu nous a parlé aussi. Dieu nous a aussi donné nos armes et notre position. Ces armes que nous venons de lire, faisons-nous confiance à sa parole? Est-ce que nous annonçons l'Évangile pour notre vie, pour l'annoncer? Est-ce que nous prions? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que nous doutons? Dans notre bataille spirituelle aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on place notre confiance? Dans la méthode de Dieu ou dans l'activisme? Ou dans l'intelligence? Dans nos propres méthodes? Dieu veut nous enseigner à croire en lui dans notre combat. Ou est-ce que nous doutons même que nous pouvons vraiment gagner des victoires? Peut-être qu'on n'y croit même pas. Peut-être qu'on n'y croit même pas. Et si nous doutons, c'est certainement parce que nous avons oublié une chose. C'est la troisième chose à commémorer. À commémorer l'étendard de la victoire. C'est la troisième chose que Dieu veut nous apprendre. Ne pas oublier qui est notre étendard. Et pour cela, il faut apprendre à commémorer la victoire. Tout comme Josué, qui s'apprête à conquérir la terre promise. C'est pourquoi Dieu lui a donné un livre pour se souvenir. Nous lisons au verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, inscrit ceci dans un livre comme souvenir. » C'est la première fois qu'il est mention de ce livre, et ce livre, c'est très certainement les 5 livres du Pentateuque, qui sont ce que Moïse a écrit et qu'il a donné au peuple, juste avant de mourir. Et il est essentiel que Josué se rappelle de certaines choses, notamment de cette bataille. Alors qu'il s'apprête à conquérir le pays promis, il doit se rappeler de cette bataille. Et il ne faut pas oublier quoi ? La promesse de Dieu. Voici ce que Josué doit garder à l'esprit pour les futures batailles. J'effacerai le nom d'Amalek de dessous le ciel. Ce n'est pas la dernière fois qu'Israël combattra Amalek. Et effectivement, dans la suite de l'histoire, Amalek sera définitivement vaincu et battu. Dieu veut que Josué se rappelle d'une chose. Dieu combattra toujours à ses côtés. Et pour s'en souvenir, qu'est-ce que Dieu donne à Josué ? Un livre. Un livre et un souvenir. Le souvenir d'une bataille incroyable et d'un étendard dressé. Et Amalek représente pour nous une autre personne. Une autre personne qui se dresse, lui aussi, contre le trône de Dieu. Satan, l'ennemi de nos âmes. Dieu promet à son peuple, tout comme Josué, Dieu promet à son peuple que Satan sera complètement vaincu et que sa domination sur ce monde va passer, va disparaître. Et pour nous souvenir de cette promesse, qu'est-ce que Dieu nous donne ? Il nous donne aussi un livre, sa parole, la Bible, et le souvenir d'un autre étendard dressé et d'une autre victoire incroyable. Et c'est notre étendard à regarder. Moïse construisait un autel et l'appela Jéhovah Nissi, l'Éternel, mon étendard. L'Éternel, l'étendard, c'était un objet dressé sur une colline pour rallier les troupes à la bataille. Tant que l'étendard était dressé, les soldats avaient l'espérance de la victoire. Mais si l'étendard tombait, alors c'était mauvais signe. Ça veut dire qu'on est en train de perdre. Mais tant que l'étendard est dressé, la victoire est possible. Et Josué devait absolument garder souvenir de cette victoire pour les futures batailles. Et si nous voulons garder foi, confiance dans les consignes de Dieu pour notre bataille aujourd'hui, dans les armes qu'il nous a données, nous aussi, nous devons avoir en tête l'étendard de la victoire à regarder. C'est pourquoi Moïse construit cet autel, un autel, et l'appela l'Éternel, mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Dans la bataille contre Amalek, Josué et ses hommes étaient assurés de la victoire, aussi longtemps que que Moïse tenait le bâton au-dessus de sa tête. Ils savaient que la victoire n'était pas dans leurs compétences, dans leurs forces, dans leurs épées ou leur intelligence. Ils savaient que la seule personne qui leur accordait la victoire, c'était Dieu. Dieu leur accordait les victoires. Pourquoi ? Parce que son étendard était dressé. Le bâton de Moïse était dressé. Et cet étendard est dressé contre Amalek, mais il est également dressé contre les ennemis de l'Église de Saint-Maur. Contre tous ceux qui osent s'attaquer au peuple de Dieu, cela veut dire qu'il s'attaque aussi à Dieu lui-même. S'attaquer au peuple que Dieu s'est choisi, c'est s'attaquer à lui. Et on sait et on a vu dans l'Exode à quel point cela peut être effrayant. Et pour nous, aujourd'hui, Jésus-Christ est notre étendard. C'est à lui que nous regardons. Dans nos batailles aujourd'hui, la mort et la résurrection de Jésus sont notre étendard. Nous lisons en Colossiens 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus détruit complètement ce que Satan utilisait pour nous tenir prisonniers. La liste de nos péchés et la menace de la mort. Sans la croix, la liste de nos péchés reste là et Satan peut nous accuser. Et la menace de la mort qui nous prive de la vie éternelle avec Christ pèse au-dessus de nos têtes. Jésus est notre étendard. La victoire de Jésus à la croix nous assure certainement la victoire sur le péché et la mort. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui combat pour nous. Mais il nous faut combattre. Il nous faut prendre l'épée de la parole et le bouclier de la foi qui se manifeste par la prière. C'est parce que l'Éternel a déjà vaincu que nous pouvons combattre pour lui. Alors, comment l'appliquer ? Trois exemples avant de conclure. Premièrement, nous pouvons prier de manière très concrète, contre les manifestations démoniaques. Et dans nos circonstances ici en Occident, on le vit moins souvent, mais ça arrive aussi. On entend des histoires, j'ai entendu des histoires. Je vous raconte juste un témoignage récent d'un frère, la semaine dernière, qui m'a partagé qu'il est missionnaire en Afrique. Il est arrivé dans un village, il a partagé l'évangile à un jeune du village. Et cette nuit-là, il a fait un cauchemar. Un cauchemar où il avait une femme qui avait un couteau et qui essayait de le tuer. Il s'est réveillé, et quand il s'est réveillé dans sa chambre, il a vu deux ombres au pied de son lit, comme deux ombres de deux enfants qui étaient là en train de se moquer de lui, en train de rigoler, de se moquer de lui et de le menacer. Il a prié, il s'est souvenu des promesses de la Bible, de la croix, il a prié et les ombres ont disparu. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais les puissances spirituelles et démoniaques, ces manifestations-là existent, et c'est par la prière, par la parole aussi, et principalement parce que c'est ce que Dieu nous a donné, que nous pouvons combattre ces choses. Deuxièmement, nous pouvons prier pour les membres de nos familles qui sont dans les ténèbres. Comment est-ce que vous avez été sauvés? Je vous pose la question. Certainement, des gens ont prié pour vous et vous avez entendu la parole. Et c'est ça qui a permis que vous puissiez naître de nouveau, être arraché aux ténèbres, rentrer dans la lumière et connaître le Christ. La puissance de la croix s'est manifestée en réponse à ces prières dans vos vies. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire encore aujourd'hui pour les membres de nos familles qui ne le connaissent pas, nos amis qui ne le connaissent pas. Priez pour eux. Et troisièmement, pour notre Église. Nous réunir pour prier pour notre Église et particulièrement pour un sujet, comme on l'a vu en introduction, qui est important, un nouveau pasteur. Comment est-ce que les deux pasteurs qui sont actuellement parmi nous dans notre Église sont arrivés ici? Est-ce que vous vous rappelez? Combien de temps vous avez prié? Et comment est-ce qu'il est arrivé? Certainement que vous avez prié, il a entendu une parole du Seigneur, il est venu ici. Pasteur Daniel, c'est la même chose. Et pour les besoins de l'Église, pour les défis auxquels nous faisons face, les armes que Dieu nous donne sont toujours les mêmes. Prière et foi dans sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu répond à nos prières et il accomplit sa parole. C'est pourquoi il faut persévérer coûte que coûte. Persévérer comme Moïse sur la colline avec Aaron et Hur qui luttent de toutes leurs forces. Pourquoi? Pour tenir le bâton en l'air. Oui, mais pas juste un bâton. Pour obéir avec foi et confiance aux consignes que Dieu leur a données. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi. Persévérer de toutes nos forces pour continuer à obéir. En regardant à cet étendard de la croix qui nous assure la victoire. Et la victoire, elle est assurée. La victoire, au final, elle est assurée. Pour Moïse, pour Josué, ils sont sûrs de rentrer dans le pays promis. Ils sont sûrs que Dieu va accomplir sa promesse. Et pour nous aussi, la victoire est assurée. Nous sommes sûrs que nous allons rentrer dans la terre promise. Parce que la victoire est déjà remportée à la croix. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir le besoin de combattre. Nous sommes quelque part sauvés pour combattre une guerre déjà gagnée. Mais pour combattre tout de même. Je conclue. Combattre avec foi. Peu importe notre faiblesse, apprenons à combattre. Ne restons pas passifs, ne restons pas les mains dans les poches, car Dieu veut que son peuple apprenne à combattre. Peu importe notre faiblesse, apprenons à croire dans la stratégie de Dieu. La parole, la prière, les armes que Dieu nous a données, je les résume en la parole et la prière ici, mais on a lu le texte d'Éphésiens 6. N'utilisons pas d'autres méthodes, n'utilisons pas nos stratégies, n'utilisons pas notre intelligence, notre propre force. Et peu importe notre faiblesse, apprenons à commémorer, regarder à l'étendard victorieux de la croix pour garder confiance, parce que c'est comme cela que nous aurons l'assurance, qu'en réalité, la victoire est déjà gagnée. Et c'est ça qui nous donne l'assurance pour combattre, pour ne pas perdre espoir. Je termine par une question. Qui a vaincu Amalek? Est-ce Josué? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Dieu? Certainement les trois à la fois. La victoire ne dépendait pas des compétences de Josué, ni des compétences de Moïse à tenir le bâton, ni de la possession d'un bâton magique ou spécial, non. Qui a vaincu Amalek? C'est l'Éternel, en réponse à la confiance du peuple de Dieu dans sa parole, dans sa promesse. Et si nous voulons avoir des victoires et aller de l'avant, c'est la même chose. Et c'est un principe omniprésent dans la Bible, comme l'illustrent ces deux derniers versets. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Et ce, ça apparaît à de multiples reprises, je ne choisis que deux versets, mais vous pourrez regarder. Ce concept est là. Faites confiance en l'Éternel et combattez avec confiance. Alors, apprenons à combattre avec foi dans cette victoire déjà gagnée à la croix. Je termine par la prière. Seigneur, merci parce que tu as déjà remporté la victoire ultime à la croix et nous avons cette assurance que nous rentrerons dans ce pays promis ultimement. Il n'y a aucun doute là-dessus, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, l'ennemi est vaincu. Seigneur, mais on sait également qu'entre cette assurance, cette victoire gagnée et l'arrivée, il y a encore un chemin à parcourir où tu nous invites à nous battre. Et Père, je prie qu'en Église, nous puissions, Seigneur, être une Église qui prend ta parole au sérieux, une Église qui a confiance dans tes promesses, qui se lève pour combattre en ayant confiance dans ce que tu lui as donné, dans les armes que tu lui as données. Je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas ni passifs, ni découragés, mais courageusement à l'œuvre et combattant par la prière, par la parole, par ce ministère de la parole, dans nos vies, dans l'Église et aussi à sa mort. Seigneur, nous avons besoin de toi pour tenir ferme et avoir la foi. Je te prie, Seigneur, de bénir cette Église afin que nous puissions rentrer dans cet appel et glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour la victoire de la croix. Amen.